Géologie fondamentale, Belleville, 23 décembre 1982, Rimont.
Alors, le 7 contrat, au principe de la loi, le Deutéronome fait cette déclaration, telle sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Vous voyez, une fois de plus, et ça je crois que c'est quand même très significatif dans toute cette question, saint Thomas identifie volontairement théologie et révélation. Il identifie, faisons attention, hein. Il identifie du côté de la nécessité. Il n'identifie pas du tout, il n'y a pas de confusion dans saint Thomas. Mais il montre que la révélation implique une théologie. Je crois que pour saint Thomas, c'est ça que ça veut dire. Et c'est que la théologie est inséparable de la révélation, c'est bien évident, mais que la révélation implique une théologie. C'est ce que nous n'avons plus du tout comme sens. Hein. Nous savons plus ce que c'est que la théologie aujourd'hui. Alors on n'a plus du tout ça. Et ça, je crois que c'est un peu une conséquence de la réforme. Oui, c'est une conséquence de la réforme en ce sens que Luther a eu une haine, je crois qu'on peut dire une haine contre la scolastique. Il y avait de quoi, parce qu'elle était un peu décadente, elle était occamienne, donc elle était un peu décadente, et donc c'était normal que Luther ait cette haine vis-à-vis de la scolastique. Mais cette haine a porté sur toute la théologie. Et depuis Luther, au fond, dans la perspective protestante, il ne devrait plus y avoir qu'un commentaire scripturaire. De là est née l'exégèse. Et ça explique le déséquilibre d'aujourd'hui complet. Quand on regarde dans les universités catholiques et les facultés de théologie, on voit bien qu'il n'y en a plus que pour l'exégèse. Que la pensée proprement théologique, elle est indéterminée. Et avec ce dernier aspect de l'herméneutique, on sait encore moins bien ce que c'est. On ne sait plus du tout. Alors, c'est bon pour ça, de temps en temps, de se rajeunir en venant à saint Thomas. Parce que c'est se rajeunir, ça, de venir à saint Thomas. C'est un signe de vieillesse, de décrépitude, ce que nous voyons aujourd'hui, au point de vue théologique. Les théologiens sont devenus des petits vieux. Alors, ils sont devenus des petits vieux, ils ont perdu leur audace, ils ont perdu l'audace de la foi, ils ont perdu l'audace de l'intelligence. Et ils regardent toujours ce que diront le voisin. Vous voyez ? Alors, ils ont perdu la vitalité profonde de l'intelligence et la vitalité profonde de la foi. Ils ne sont plus des contemplatifs et ne sont plus des gens qui ont une philosophie et une métaphysique. Alors, il n'y a plus cette vitalité. Je crois que ce qu'on doit redonner aujourd'hui, c'est la vitalité à la théologie. En revenant à la source. En revenant à la source, l'écriture, c'est bien évident, mais l'écriture, pas à la manière des exégètes. L'exégèse existe, on sait très bien, pas à la manière des exégètes, revenir à l'écriture, à la manière dont le pape revient à l'écriture. Vous voyez ? C'est-à-dire avec une simplicité, une audace merveilleuse. C'est ça que le Saint-Esprit réclame de nous aujourd'hui. J'en suis persuadé. Sans trop ça. C'est ce que les hommes ont besoin. Ils ont besoin d'une théologie, c'est-à-dire ils ont besoin de gens intelligents qui réfléchissent sur la parole de Dieu. Et qui réfléchit sur la parole de Dieu dans tous les sens où l'humanité a besoin qu'on réfléchisse. Et au fond, c'est ça la théologie, c'est réfléchir sur la parole de Dieu, alors avec des dimensions différentes, et c'est ça qui est intéressant, que saint Thomas situe tout de suite la théologie et en deux dimensions, science, sagesse. Alors ça, je crois que c'est capital. Donc, telle sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Il est bien évident que cette parole du Deutéronome ne regarde pas la Summa Theologia de saint Thomas. Ça, c'est bien évident. Et saint Thomas l'accapare pour lui tout bonnement. C'est une espèce de toupet merveilleux. J'essaie de voir ça. Quand il est dit là que « Et qu'est-ce nostra sapientia et intellectus coram populis ?» Coram populis, c'est ça. Cette doctrine est par excellence une sagesse parmi toutes les sagesses humaines, et cela non pas seulement dans un genre particulier, mais absolument. Donc elle est simpliciter. Hein. Ça, c'est très important de bien voir le simpliciter de saint Thomas. Hein. C'est aplos en grec. Parce que c'est dire d'une façon absolue. Donc c'est d'une façon absolue. Elle est sagesse d'une manière absolue. Et vous voyez, c'est très intéressant. Saint Thomas dit elle est sagesse d'une manière absolue, et saint Thomas fait encore une distinction dans le simpliciter entre la sagesse infuse et la sagesse acquise. C'est pour ça que c'est même pris là d'une façon analogique. En effet, puisqu'il appartient aux sages d'intimer l'ordre et de juger, cum enim sapientis et ordinare et judicare. Je crois qu'il vaut mieux dire, puisqu'il appartient, il est du sage d'ordonner et de discerner. Le judicium, cependant, par les causes les plus hautes, par rapport aux choses inférieures. N'est-ce pas ? Donc il est le propre du sage d'ordonner et de discerner, et que d'autre part, le jugement par ce qui est inférieur s'obtient par un appel à une cause plus élevée, celui-là est le sage, en un genre quelconque, qui prend en considération la cause suprême de ce genre. Il y a un ordre parmi les causes, le jugement suprême se prend toujours de la cause suprême de ce genre. Par exemple, alors on donne un petit exemple pour qu'on comprenne bien. Par exemple, s'il s'agit de la construction, l'homme de l'art qui a disposé les plans de la maison mérite le titre de sage, le sage de Rimmon. Donc le sage de Rimmon, l'architecte. Donc, mérite le titre de sage et d'architecte au regard des techniciens inférieurs. Vous voyez bien, tous ceux qui sont les techniciens inférieurs, qui sont là uniquement pour organiser l'électricité, n'est-ce pas ? C'est les inférieurs. C'est les techniciens inférieurs qui taillent les pierres ou préparent le ciment. Saint-Thomas, c'est tailler les pierres et préparer le ciment. Aujourd'hui, il dirait autre chose. Hein. On voit très bien. Préparer les robinets, si vous voulez. Ce pourquoi l'apôtre dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Alors ça, c'est bien le point de vue grec. Architecne, l'architecte. Hein. Donc celui qui est au principe de toutes les techniques. Celui qui est au principe de tout art. Que s'il s'agit de la vie humaine, dans son ensemble, l'homme prudent sera appelé sage du fait qu'il ordonne les actes humains vers la fin qu'ils doivent atteindre. Ainsi est-il dit au proverbe, la sagesse est prudence pour l'homme. Celui-là donc, qui prend de façon pure et simple comme objet de considération la cause suprême de tout l'univers qui est Dieu, mérite par excellence le nom de sage. C'est pourquoi, comme on le voit dans saint Augustin, la sagesse est appelée la connaissance la plus divine. Or, la doctrine sacrée traite très proprement de Dieu, selon qu'il est la cause suprême, car elle ne se contente pas de ce qu'on peut en savoir par les créatures, ce que les philosophes ont connu, ce qu'on peut connaître de Dieu, et par eux manifeste, dit en effet l'apôtre. Elle enseigne ainsi de Dieu ce qui n'est connu que par lui seul, et qu'il nous communique par révélation. La doctrine sacrée mérite donc par excellence le nom de sagesse. Donc voyez bien le raisonnement de saint Thomas. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? C'est un très bel article, ça. C'est un article qui met au point le point de vue de la science et de la sagesse, pour bien voir. Alors, dans le sens aristotélicien, science, sagesse. Dans le sens aristotélicien, qu'est-ce que c'est que la science ? Connaissance par les causes, invitée par les causes propres, par les causes immédiates, propres. Aristote le dit, hein. Par les causes propres, par les principes propres. C'est ça le propre de la science. Je connais une réalité scientifiquement quand j'atteins sa cause. Il y a très peu de choses qu'on connaît scientifiquement. au sens aristotélicien. Très peu de choses. Je ne connais jamais scientifiquement le mal. Jamais. Il n'y a pas de cause propre du mal. Donc je ne connais jamais scientifiquement. On n'a qu'une connaissance analogique. Une connaissance par l'intermédiaire d'autre chose. C'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de science de la maladie. À ce point de vue-là. Science au sens, encore une fois, science. Il y a des lois, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas les causes, hein. Les lois, c'est dire antécédents et conséquents. Je prendrai par exemple des champignons tels ce soir, il y a des chances que pendant la nuit, ça se passe mal. N'est-ce pas? Bon, alors ça, je peux établir une loi. C'est pas une cause. C'est une loi, antécédents et conséquents. Si vous prenez ceci, il passera là. Et les sorciers le savent très bien. Et puis ils peuvent mettre comme ça un petit poison, puis ils attendent. Et ce poison ne conduit pas à la mort, et je saurai le repêcher. Évidemment, il faudra payer quelque chose, vous voyez. Mais c'est comme ça que je le ferai. Mais alors à ce moment-là, on a des lois, on n'a pas les causes, ce n'est pas les causes propres. Les causes propres, il y en a très peu, au fond, en dehors de la philosophie. Très peu de causes propres. Donc la science, c'est connaître par les causes propres. La sagesse, c'est connaître par la cause suprême. Vous voyez, par le paralysme entre les deux. Des deux côtés, c'est la cause, mais l'un, c'est de la cause immédiate, et l'autre, c'est la cause suprême. Donc la sagesse, c'est ça. C'est pour ça que le sage... C'est celui qui ordonne, parce que par la connaissance de sagesse, je peux ordonner. Je peux ordonner tout ce qui est soumis à cette cause principale, à cette cause suprême. J'ordonne tout, en fonction de cette cause suprême. Donc la cause suprême, c'est toujours la cause finale. La fin, c'est la cause des causes. Vous comprenez comment la prudence et sagesse dans l'ordre des activités humaines, puisque la prudence rappelle toujours la finalité. Un homme prudent, c'est celui qui fait tout en vue de la finalité. Vous êtes prudent dans la mesure où vous faites tout en vue de la finalité. Vous n'êtes pas prudent si vous ne faites pas en vue de la finalité. Vous pouvez être un artiste, mais pas un homme prudent. L'homme prudent, c'est celui qui organise tout en vue de la finalité, et qui organise le plus possible en vue de la finalité. Ça, c'est le prudent. On regarde toute la multiplicité de nos activités, toutes nos capacités multiples, et tout ça est ordonné à la finalité. C'est enfin à la fin humaine. Mais la fin humaine n'est pas la cause suprême dernière. La cause suprême dernière, c'est Dieu. Alors, deux sagesses. Une sagesse philosophique, la connaissance que j'ai de la cause suprême par les créatures, et une sagesse révélé. Je connais la cause suprême par elle-même. Oui. Si je la connais par elle-même, je la connais donc d'une façon intime et personnelle, et donc j'aurai une nouvelle sagesse qui permettra de tout ordonner vis-à-vis de cette cause suprême que je connais par elle-même. Tandis qu'au contraire, si je connais cette cause suprême par l'intermédiaire des créatures, j'ordonnerai tout, ce sera bien une sagesse, la philosophie bien une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse aussi intime, aussi parfaite, que lorsque la cause suprême se révèle elle-même à moi-même. Alors à ce moment-là, j'ai une connaissance plus parfaite de la cause ultime, de la cause suprême, et la cause suprême se révélant à moi-même permet de tout ordonner d'une manière plus immédiate à cette cause suprême. Donc voyez comment Saint Thomas, ici encore, identifie sagesse révélée théologique. Chaque fois, on l'a vu chaque fois, à travers toute la question. Ça me semble très très significatif. Alors, voyons maintenant, si vous voulez, on va revenir après à quelques questions là-dessus, parce que vous comprenez que ça pose des petits problèmes, ça. Alors, première objection, il ne semble pas, car une doctrine qui prend ses principes hors d'elle-même ne ferait pas le don de sagesse. Ça, c'est très très bon comme objection. Comment une science subalternée peut-elle être sagesse? C'est impossible. une science subalternée dit nécessairement qu'elle est dépendante. Ce qui dit sagesse dit quelque chose d'ultime. Alors, ce qui est dépendant ne peut pas être ultime. Le rôle du sage est d'intimer l'ordre, d'ordonner, et non de le recevoir d'un autre, déclare en effet Aristote. Or, cette doctrine-ci, donc la théologie, emprunte ailleurs ses principes, ainsi qu'on l'a reconnu. Elle n'est donc pas une sagesse. Dans le corps de l'article, j'ai simplement regardé le point de vue de la révélation. Alors, ça ne portait pas. Mais ici, l'objection est là tout de suite. La doctrine sacrée, la doctrina sacra, n'emprunte ses principes à aucune science humaine. Elle les tient de la science divine, qui règle à titre de sagesse souveraine toute notre connaissance. Ah oui, c'est une réponse un peu rapide. Au fond, c'est vraiment la révélation. Les athomans ne traitent pas la question. On va y revenir, parce qu'il faut quand même, essayer de saisir ça. Alors, donc c'est net, je crois, la doctrine sacrée, la doctrina sacra, non supponit sua principia ab aliqua scientia humana, sed a scientia divina. A quoi sicut a summa sapientia, omnis nostra cognitio ordinatur, par laquelle, comme par la sagesse suprême, toute notre connaissance est ordonnée. Alors, seconde objection. C'est le fait d'une sagesse d'établir les principes d'une autre, d'autres sciences, d'où ce titre de chef des autres sciences que lui attribue Aristote. Or, la doctrine sacrée ne se comporte pas ainsi. Elle n'est donc point sagesse. Alors, réponse. Les principes des autres sciences, ou bien sont évidents, persenota, et donc ne peuvent être prouvés, ou bien sont prouvés par quelque raison naturelle, dans une autre science. Or, la connaissance propre à notre science est obtenu par révélation et non par une raison naturelle. C'est pourquoi il n'appartient pas à la doctrine sacrée de démontrer les principes des autres sciences, mais seulement d'en juger. Car tout ce qui se trouverait dans ces sciences contraire à la vérité exprimée par la science sacrée doit être condamné comme faux. Hein, on est loin de cette perspective de saint Thomas, voyez ça. On dirait la science vous dit ça. Eh bien alors, reculez, théologien, puis taisez-vous. Vous très très bien, saint Thomas, pas du tout. Je vous dis, ça c'est la naïveté des théologiens du Moyen-Âge, je sais pas, ils croient, ils ont la foi. Nous détruisons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la science de Dieu. Voilà ce que l'apôtre dit aux Corinthiens. Concilia destruantes et omnem altuinem extollantem se adversus scientiam dei. Dernière objection. Notre doctrine, enfin, s'acquiert par l'étude, tandis que la sagesse est obtenue par infusion. L'infusion de la sagesse. Ainsi en est-elle comptée parmi les sept dons du Saint-Esprit, comme on le voit en Isaïe. La doctrine sacrée n'est donc pas une sagesse. Alors, c'est ici où saint Thomas va bien montrer. Puisque juger est le fait du sage, judicium ad sapientem pertinent. Alors, judicium toujours, le crinène, discerner. Je crois que pour nous, ça dit beaucoup mieux, puisque discerner, le discernement, juger, le discernement, c'est le jugement le plus fort, quand on discerne. Juger est le fait du sage. Aux deux façons de juger dont on peut faire état correspondront deux sagesses différentes. Il arrive en effet qu'on juge par inclination, comme celui qui possède un habitus vertueux juge avec rectitude de ce qu'il doit faire dans la ligne de cet habitus, étant déjà incliné dans ce sens. Ça, c'est le jugement par connaturalité. Le jugement par connaturalité. J'ai la vertu d'humilité. Alors, je peux l'affirmer. J'ai la vertu d'humilité. Par le fait même, grâce à la vertu d'humilité, je suis en connaturalité avec tout ce qui est humble. Et je reconnais ce qui est humble de ce qui est orgueilleux. Je fais le discernement entre les deux. Grâce à la vertu d'humilité. Oui. Si je n'ai pas la vertu d'humilité, je n'ai pas une connaturalité vis-à-vis de ça. On trouvera ça dans l'art, du reste, vous voyez, c'est très net. Un artiste sans. J'arrive pas à discerner, mais c'est pas ça. C'est sûrement pas ça. Mais le jugement sera beaucoup plus négatif, du reste, très souvent, par connaturalité. On dira non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne... Aussi, Aristote déclare-t-il que l'homme vertueux est la mesure et la règle des actions humaines. Ça aussi, c'est une des choses très belles d'Aristote. Que l'homme virtuo, le virtuosus, est mensura et regula humanorum actum. Mais il est une autre façon de juger, de discerner, à savoir par science, comme celui qui est instruit de la science morale peut juger des actes d'une vertu, même s'il n'a pas cette vertu. La première façon de juger des choses divines est le fait de la sagesse don du Saint-Esprit. Selon cette parole de l'apôtre, l'homme spirituel juge de tout. De même, Denis dit « Hieroté est devenu sage, non seulement en étudiant, mais en éprouvant le divin. » C'est cette fameuse phrase de Denis, n'est-ce pas ?« Hieroteus doctus est non solum dicens, sed patiens divina. » En éprouvant les choses divines. Quant à l'autre façon de juger, c'est celle qui appartient à la science qui nous occupe, selon qu'elle est obtenue par l'étude, bien que ses principes lui viennent par la révélation, lui viennent de la révélation. Première fois où explicitement on est en phase de l'étude. Article 6. Là, c'est très net. Obtenue par l'étude. Donc, une sagesse acquise. Alors, voyez, ce passage de saint Thomas est très intéressant. Mettez en parallèle ce que saint Thérèse dit. C'est à propos d'un directeur de conscience. Saint Thérèse dit, il vaut mieux prendre un théologien qu'un saint. Un saint a le jugement par connaturalité. Et le théologien par science. Et saint Thérèse dit, il vaut mieux prendre un théologien qu'un saint. Que ça s'orénère à première vue en contradiction avec saint Thomas. Ce saint Thomas met très nettement la sagesse don du Saint-Esprit avant. Je comprends. La sagesse don du Saint-Esprit nous donne une connaturalité des choses divines et nous permet donc de porter un discernement en connaissance de cause affectivement par l'amour. Tandis qu'au contraire, la science me permet de poser une connaissance par mode de connaissance, par le point de vue d'étude, ce qui est acquis. Très curieux, ça. Et vous voyez pourquoi sainte Thérèse dit ça. C'est parce que le théologien explique. Le saint ne peut pas expliquer. Le saint dirait, c'est bien. Oui, c'est doit être conforme. Ce que disait Marc, ceux qui ont connu Marc, c'est ça. Par connaturalité. Et elle disait, c'est vous à expliquer. C'est vous à expliquer. C'est pas à moi. C'est le théologien qui explique. Alors on comprend très bien que sainte Thérèse, qui avait le don du Saint-Esprit, n'avait pas besoin d'avoir à côté d'elle quelqu'un qui ait le don du Saint-Esprit. Elle l'avait. Et elle n'avait pas la science théologique acquise. Alors elle avait besoin de ce complément. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin d'un théologien qui explique et qui soit là à son service. Tandis qu'elle avait le don du Saint-Esprit. Et c'est vrai, quelqu'un qui est mené par le Saint-Esprit a besoin d'un théologien. Le théologien, lui, a besoin d'un saint. Pas pour être dirigé, parce que s'il ne peut pas être dirigé, mais il a besoin d'un saint pour lui donner un élan du cœur. Hein. Oui, il a besoin de diriger par un autre théologien, toujours, pour que ce soi-même, il faut aveugle pour soi. Alors, il a besoin de cela. Mais on voit très bien comment Sainte Thérèse peut dire ça, et à première vue, ce que dit Saint Thomas a l'air dans un sens inverse. Mais vous voyez que c'est tout à fait différent. Sainte Thérèse dit ça par mode d'utilité, d'ordre pratique, par mode de complémentarité. Tandis qu'au contraire, Saint Thomas voit la dignité de la sagesse. C'est en sens-là que vous avez trois sagesses, sagesse philosophique, ça c'est la trinité de Saint Thomas. Hein. Il ne faut jamais l'oublier, ça c'est capital. C'est Saint Thomas dit ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que c'est, je crois cela, le propre du génie de Saint Thomas. C'est d'avoir discerné une sagesse philosophique, une sagesse révélée à qui ? Une sagesse révélée infuse. Alors vous avez la théologie, la summa, la théologie, ou la doctrina sacra, je vais vous dire. La doctrina sacra, et ici le don de Saint-Esprit. Vous avez les trois. Et ça, il ne faut jamais les oublier. Il y a donc trois ordres. Il y a trois ordres, puisque le propre du sage, c'est d'ordonner. Vous avez un ordre philosophique. Et alors, vous pouvez ajouter, hein, vous pouvez ajouter, parce que il faut aller jusqu'au bout, vous pouvez ajouter la prodécie, la prudence. Vous auriez ici la métaphysique. Vous avez donc quatre sagesses que saint Thomas reconnaît. Une sagesse d'ordre pratique, acquise. Une sagesse spéculative, acquise. Une sagesse à base de révélation, acquise. Et une sagesse infuse. Vous avez donc quatre ordres. Quatre ordres qu'il faut tout le temps respecter. Qu'il faut tout le temps respecter. Et chacun de ces ordres permet, vous voyez, de comprendre parfaitement ce qu'on doit faire. C'est très beau, du reste, ça. C'est très beau à bien saisir. Ça, c'est la structure profonde, vous voyez, de la pensée de saint Thomas. C'est, je crois, très caractéristique. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je crois que c'est très caractéristique de la pensée de saint Thomas. Alors, revenons. Une fois qu'on a vu ça, je crois que ça c'est... on va essayer de revenir. Au problème crucial, vous le sentez bien, comment une science subalternée peut-elle être sagesse? Comment une science subalternée peut-elle être sagesse? Alors moi je crois qu'il faut essayer, parce que saint Thomas a un peu noyé le poisson. Hein. Il a dit tout simplement, c'est très simple, puisque elle ne dépend pas de la raison. Elle n'emprunte pas ses principes à la science humaine, elle les emprunte tout simplement à la révélation. Donc si ça emprunte à la révélation, ça s'entend directement avec Dieu, donc ça reste sagesse. Vous voyez, pas besoin de regarder autre chose. Alors, il faut bien comprendre, hein, la structure de la science théologique reste une structure qui a une certitude plus grande que toutes les autres certitudes, nous l'avons vu, mais qui a une obscurité que la métaphysique n'a pas. Donc, du côté évidence, la sagesse, du côté évidence, la sagesse théologique a une infériorité vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'elle est science subalterne. Mais comme elle est subalternée directement à Dieu, ce n'est pas au sens, ça ne fait pas nombre, si vous voulez. Une science subalternée humaine serait toujours dans un état d'infériorité, donc ne pourrait pas être sagesse. Une science subalternée à la révélation et à la science de Dieu peut être sagesse. Parce que, de fait, étant subalternée à la science de Dieu, c'est uniquement du côté du sujet, c'est pas du côté de l'objet. C'est du côté du sujet. Du côté du sujet, elle mendie ses principes dans la foi. Et donc, elle reste dans l'obscurité, elle reste dans les ténèbres, elle reste dans la non-évidence. Mais, au point de vue de son objet, elle peut être sagesse. Parce que ça ne. Elle n'est pas à, du fait, c'est pas parce qu'elle est subalternée qu'elle va regarder un sujet inférieur. Elle reste directement liée au mystère de Dieu. Et elle regarde en premier lieu le mystère de Dieu. Donc si elle regarde en premier lieu le mystère de Dieu, elle regarde la cause suprême, et donc elle reste sagesse. Alors vous voyez, c'est curieux, ça, hein? C'est très curieux. C'est intéressant à bien voir, parce que ça fait comprendre le statut tout à fait particulier de la théologie. Dans la perspective de saint Thomas, elle garde une dignité de sagesse, elle garde une autonomie de sagesse, une suprématie de sagesse, mais elle est subalternée. C'est pour ça que c'est pas commode d'être un théologien. Parce qu'il faut accepter d'être dans un état de subalternation vis-à-vis de la science des saints. Donc, il faut reconnaître que la seule manière de pouvoir être un théologien, c'est d'être un contemplatif. Et en même temps, il faut garder la structure de la science. Suprématie de sagesse, mais elle est subalternée. C'est pour ça que c'est pas commode d'être un théologien. Parce qu'il faut accepter d'être dans un état de subalternation vis-à-vis de la science des saints. Donc, il faut reconnaître que la seule manière de pouvoir être un théologien, c'est d'être un contemplatif. Et en même temps, il faut garder la structure de la science, parce que c'est elle est science, donc la rigueur de la science, tout en reconnaissant qu'elle est sagesse. Les sagesses et sciences. Oui.
Vous avez la science des saints,
c'est... Ah, la science des saints, c'est... dans la sagesse. C'est ça, la science des saints. Oui. C'est pas... On ne peut pas dire que la théologie acquise, c'est la science des saints. Elle est subalternée à la science des saints. Elle est dépendante de la science des saints, dépendante de la contemplation. Oui. Alors, le problème qui se pose, vous vous souvenez, au début de l'année, je crois, pour certains, en montrant comment, dans notre monde d'aujourd'hui, la théologie pouvait se comprendre selon diverses modalités. Alors, ce qu'il faudrait se demander, si la théologie, la doctrina sacra, telle que saint Thomas l'a donnée ici, est sagesse dans toutes les parties de la théologie. Science et sagesse. Vous voyez, si je prends la théologie scientifique, la théologie biblique, la théologie de l'Église, du vivant, la théologie mystique. C'est les diverses parties de la théologie. Alors, est-ce que toutes ces modalités de la théologie demandent d'être science et demande d'être sagesse? Ou est-ce que seule une est scientifique, l'autre est sagesse, et les deux autres sont des dispositions ou des propriétés? Très bien structuré comme ça. La disposition de théologie biblique, elle conduit à la théologie scientifique qui est dans l'axe, cet axe aboutit à la théologie mystique, qui elle-même va s'épanouir dans la théologie de l'Église. Vous voyez ? Donc j'aurai une organisation de la théologie de cette manière-là, en voyant toujours ces quatre parties de la théologie. Bien, je crois que si on fait ça, on extériorise un peu. Hein. Je crois qu'il faut dire que toutes les parties de la théologie sont scientifiques, et que toutes elles sont théologiques. Mais elles sont scientifiques selon des modalités différentes. Exactement comme la philosophie. Toutes les parties de la philosophie sont philosophiques et scientifiques, mais selon des modalités différentes. La philosophie de la nature est philosophique, elle est scientifique, mais elle est moins scientifique que la métaphysique. Elle est moins sagesse que la métaphysique. La métaphysique seule est pleinement sagesse. Alors ici, c'est un peu la même chose. La théologie mystique seule est parfaitement sagesse. La théologie scientifique l'est. La théologie de l'Église l'est aussi, puisque toujours L'unité, c'est de regarder sous la lumière de Dieu révélance. C'est Dieu qui me révèle. Donc si c'est toujours dans la lumière de Dieu qui se révèle à nous, nécessairement c'est toujours la cause suprême. Toutes les parties, la fille, toutes les parties. Parce qu'on regarde la parole de Dieu, on regarde la parole de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu, donc toujours dans la lumière de la révélation. Pas d'autres questions? On peut continuer? Alors, regardons. Dieu est-il sujet de cette science? Ça, c'est une question qui va être facile, mais qui est importante au point de vue précision d'ordre, si vous voulez, critique. Cependant, on doit considérer comme le sujet d'une science cela même dont on parle dans la science. Or, dans la science sacrée, on discourt de Dieu, d'où son nom de théologie. Autrement dit, de discours ou de parole sur Dieu. Dieu est donc bien le sujet de cette science. Cela dont on parle dans la science. Voyez, c'est un terme logique, hein, le sujet d'une science. Ce à quoi tout est attribué. Quel est le sujet de la métaphysique? Saint Thomas le dit, hein. Quel est le sujet de la métaphysique? Ens in quantum ens. Le sujet de la métaphysique. Très souvent, on dit que c'est l'objet. Non, c'est pas l'objet. L'objet de la métaphysique, c'est les principes. C'est l'ousia. C'est l'acte. Tandis que le sujet, c'est ce à quoi tout est attribué. Tout est attribué à ens, ce qui est. C'est ce qui est en tant qu'être, qui est le sujet de la métaphysique. Bien, quel est le sujet de la doctrine sacrée? C'est Dieu, puisque c'est toujours de lui dont on parle. Dieu est effectivement le sujet de cette doctrine sacrée. Il y a même rapport, en effet, du sujet d'une science à la science elle-même que de l'objet à une puissance de l'âme ou à un habitus. Or, on assigne proprement comme objet à une puissance ou à un habitus ce qui détermine le point de vue sous lequel toute chose se réfère à cette puissance ou à cet habitus. Ainsi, l'homme et la pierre se réfèrent à la vue selon qu'ils sont colorés. C'est pourquoi le coloré est l'objet propre de la vue. Or, dans la science sacrée, tout ne se traite que sous la raison de Dieu, ou du point de vue de Dieu, soit que l'objet envisagé soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme objet, ou à Dieu comme fin. D'où il suit que Dieu est vraiment le sujet de cette science. Ceci d'ailleurs est aussi manifeste si l'on envisage les principes de notre doctrine, qui sont les articles de foi, laquelle concerne Dieu. Or, il y a identité dans une science entre le sujet des principes et celui de la science tout entière. Toute science étant contenu virtuellement dans ses principes. Vous voyez, il y a identité dans une science entre le sujet des principes et celui de la science tout entière. Toute la science étant conforme virtuellement, étant contenue virtuellement dans ses principes. Certains toutefois, considérant les choses même dont traite cette science, et non le point de vue sous lequel elle les envisage, en ont assigné autrement la matière. Ainsi parle-t-il de choses et de signes. C'est la terminologie de saint Augustin, de res et signa. Ou des œuvres de la réparation. Ou de tout le Christ. à savoir le chef et les membres, il est bien traité de tout cela dans notre science, mais c'est toujours par rapport à Dieu. Donc, voyez comment saint Thomas va préciser ce point de vue-là. Je crois que tout repose là-dessus. Il y a même rapport. Sic enim seabet subjectum ad fianciam, sic ut objectum ad potentiam. Vel habitus. Donc, c'est ça qu'on doit retenir pour bien comprendre tout le sens de cet article. Donc, ainsi, le sujet se rapporte à la science comme l'objet à la puissance. Le rapport objet-puissance est quelque chose de beaucoup plus connu que le rapport sujet-science. Objet-puissance est analogue à sujet-science. Alors, vous voyez le rapport. Hein? L'objet, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'objet par rapport à la puissance? C'est principe de spécification. L'objet se rapporte à la puissance dans le sens que l'objet détermine la puissance et permet à la puissance d'opérer. À la dounamis, hein? La puissance d'opérer. Donc l'objet, c'est le principe de spécification, c'est ce qui détermine. Le sujet, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Ce à quoi tout est attribué. Ce sous lequel on regarde toute chose. Alors, le sujet, c'est ce qui, de fait, permet de déterminer une science. Or, on assigne proprement comme objet une puissance ou un habitus, ce qui détermine le point de vue sous lequel toute chose se réfère à cette puissance ou à cet habitus. Ainsi, l'homme et la pierre se réfèrent à la vue selon qu'ils sont colorés. Et c'est pourquoi le coloré est l'objet propre de la vue. Or, dans la science sacrée, tout ne se traite que sous la raison de Dieu. Alors, c'est là où il faut bien saisir. Hein. Dans la science sacrée, tout se traite sous la science sous la raison de Dieu, ou au point de vue de Dieu, soit par l'objet envisagé, soit Dieu lui-même, que l'objet envisagé soit Dieu lui-même. Donc, alors à ce moment-là, c'est le sujet à qui est attribué. Vous voyez, il y a les deux qui vont conjuguer. C'est ça qu'il faut bien saisir. Donc, soit au point de vue de Dieu, soit pour l'objet envisagé, soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme principe ou à Dieu comme fin. Donc, simple fait qu'il se réfère à Dieu, la référence à Dieu comme principe, comme coefficient, si vous voulez, et comme fin. Donc, Dieu est pris comme sujet, Dieu est pris comme coefficient, Dieu est pris comme fin. Donc, il est attribué, ce vers quoi toute chose est attribuée. Alors, à ce moment-là, vous voyez que pour la science, le sujet, c'est bien ce qui détermine la science. C'est bien ce qui donne à la science sa signification, exactement comme l'objet donne à la puissance sa spécification. Et c'est en ce sens-là qu'on peut faire l'analogie entre le point de vue du sujet et le point de vue de l'objet. On a sonné. Vous réfléchirez à ça, parce que c'est assez subtil, hein, mais il faut bien le saisir.